Loué et remercié soit le Seigneur notre Dieu. Nous avons été déjà bénis par la parole et par les cantiques. Et je nous souhaite à tous, à moi et à nous tous, vraiment la relation avec Dieu, à Dieu, la communion avec lui. Et que il puisse nous accorder un désir sincère d'écouter sa parole pour que nous soyons prêts à nous laisser enseigner, à nous laisser corriger et apporter dans l'état dans lequel c'est notre place d'être voulu de Dieu et dans lequel nous voulons être trouvés quand le Seigneur revient. Nous savons que lors du retour du Seigneur, le corps sera transformé. Mais déjà maintenant, il faut que notre âme, il faut que notre intérieur le plus profond soit déjà maintenant transformé pour que l'extérieur donc soit transformé, puisse être transformé. Donc notre corps, si l'intérieur, si notre cœur, notre âme n'est pas maintenant transformé, changé, alors notre corps, notre extérieur ne pourra pas non plus être changé, être transformé. C'est peut-être raison que ces heures-là de communion, ces heures de préparation, qu'elles soient des heures de préparation, ces heures de communion, qu'elles soient des heures de préparation dans lesquelles nous rapprochons du Seigneur, et qu'il puisse nous révéler sa personne et sa nature et sa volonté encore plus. Je suis encore touché, impressionné par tous les appels téléphoniques. Ça a commencé avec l'Australie. Ça commence avec l'Australie. Et ça continue par la Moldavie, par le Uzbékistan, l'Ukraine, depuis hier. Tous dans la langue russe peuvent écouter depuis hier. Et ça, c'est pour moi un don, un cadeau. Et je crois particulièrement aussi pour notre bien-aimé frère Paul Schmidt. Vous ne reconnaîtrez plus le frère Schmidt si vous le voyez lors d'une traduction de l'allemand en russe. Alors ça, c'est tout à fait un autre frère Schmidt. Alors, il n'est pas en train de chercher des mots. Cela coule, mais vraiment, c'est merveilleux. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Des appels jusqu'à même l'Afrique du Sud, le Congo, réellement de partout, les frères appellent et nous saluent et nous nous réjouissons de ce que beaucoup écoutent. Et il y a un frère qui disait en insistant, frère Franck, nous prions nuit et jour pour toi. Et nous prions pour l'œuvre de Dieu sur terre. Qu'elle soit achevée et que le Seigneur puisse revenir. C'est ainsi que nous remercions notre Seigneur pour la grâce, pour le privilège, pour la possibilité que nous avons réellement d'ici, maintenant, d'atteindre le monde entier en cette langue, et tous peuvent écouter et voir et être béni. Je pense au commencement dans les années 60, comment est-ce que fatigant tous les voyages à l'Europe de l'Est étaient, et tous les voyages avec donc en voiture, combien de fois il y avait eu des difficultés qui menaçaient aux différentes frontières où tout a été fouillé, chaque coffre arrière, toutes les valises, et il faisait que chercher des bibles Avez-vous des Bibles avec vous? Avez-vous des Bibles et des littératures chrétiennes sur vous, avec vous? C'était les premières deux questions qui étaient posées à toutes les frontières et douanes dans les pays de l'Europe de l'Est. Et le frère Franck, un jour à Bucarest, avait 6 Bibles sur lui et la sienne aussi. Et je l'ai déjà raconté ici. Comment est-ce que Dieu, le Seigneur, a de manière merveilleuse conduit les choses? De manière que le douanier a rapidement tourné autour de lui pour voir s'il n'y a pas des collègues qui auraient vu ou bien entendu l'entretien. Et il m'a fait un signe en me souhaitant le bien et il m'a dit, repartez vite et donnez les Bibles à vos amis. Donnez les Bibles à vos amis. Partez vite. Et ça, nous l'avons aussi fait. Et quand je pense à toutes ces années, à ma première visite à Moscou, à ma première visite à Prague, à ma première visite à Varsovie, à Bucarest et partout, et qu'aujourd'hui, je pense que tous peuvent maintenant écouter en direct et voir tant qu'on a besoin d'y aller et d'entreprendre des voyages difficiles, mais que les possibilités existent maintenant pour que la parole de notre Dieu soit apportée. Aussi aujourd'hui, je voudrais saluer tous et souhaiter à tous la bienvenue, particulièrement notre visite bien spéciale du Chili. Levez-vous s'il vous plaît, vous deux encore. Je ne sais pas si cela est... Si vous êtes d'accord, mais c'est la mère et sa fille qui viennent du Chili. Nous nous réjouissons de ce que vous... Vous êtes ici et que Dieu a rendu cela possible. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dieu voulant, nous nous verrons quelque part dans le futur au Chili. Que Dieu vous bénisse. Et de la même manière, tous les autres, nous avons de la visite de la Bosnie, vraiment de partout et de toute l'Europe, de Marseille, de Lyon, de Grenoble. Et bien sûr, ici, tous nos amis. Oui, notre frère, ici devant Hervé. Que Dieu te bénisse de Lyon. Que Dieu te bénisse particulièrement. Particulièrement. Dieu voulant ça, avec le frère Coupe-feu hier et des frères, nous avons déjà rapidement parlé de cela. Dieu voulant, avec le frère Coupe-feu, bientôt je viendrai à Lyon. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. Ensuite, nous allons tout de suite appeler pour la prière de frères. Mais je voudrais rapidement, on m'a aussi demandé de dire plus de paroles sur ce qui se passe actuellement avec Israël aussi et de donner des informations plus détaillées. Le frère de l'Australie demandait qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant en Israël? D'autres frères posent la même question. Je voudrais pour cela réellement rapidement. D'abord, lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est, n'est-ce pas, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, sur notre sentier. Amos, donc, chapitre 9, à partir du verset 14. Amos, chapitre 9, verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Maintenant arrive. Je les planterai dans leur pays. Et je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dis l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ton Dieu te l'a promis. Oui.
Amen.
Et ici est le point. Parce que Israël est dans le pays de la promesse, et de 143 pays a été rassemblé à la fin des jours, tel que Dieu dans Ésaïe 14 au verset 1 et dans Jérémie 31 au verset 8 l'a dit, et aussi dans le prophète Ézéchiel, même le départagement, donc le partage des différents tribus est ordonné dans Ézéchiel, justement parce qu'il s'agit du pays de la promesse et qu'il s'agit du peuple de la promesse. C'est pour cette raison que tous les autres peuples et toute cette adversité autour d'Israël est émise contre le peuple de Dieu naturel, justement parce que Dieu a donné des promesses et par sa grâce les a accomplies. Et cela rapporté à l'Église, c'est de la même manière, la même chose. L'adversaire dirige ses attaques contre aucune église ou bien dénomination. Seulement, il dirige ses attaques contre les élus de Dieu qui croient la parole de la promesse et qui vivent et sont trouvés et vont être trouvés dans la parole de la promesse pour cette époque. Et cela devrait nous consoler. Cela devrait nous fortifier. Car c'est en cela que nous reconnaissons que Dieu a son chemin avec Israël et avec l'Église parmi les nations. Seulement, et cela aussi, très rapidement, de plusieurs publications anciennes, donc âgées, vieilles, qui concernent particulièrement Israël. Jérusalem. Tous nous avons bien compris que la procédure de paix a reçu un nouveau élan, et que maintenant, à tout prix, ils veulent atteindre la paix. Ils doivent atteindre la paix. Tous nous le savons, que ce sera une apparence de paix, car c'est ainsi que c'est écrit. Quand ils diront paix et sûreté, c'est à ce moment-là que la destruction les surprendra comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Un article tout à fait officiel, et ici il est écrit: avant toute chose, le plan de l'ONU de la division du pays de 181 de 1947 contient la division du pays en un État juif et un État arabe, tel que il prévoyait de rendre Jérusalem une ville internationale. C'est ainsi que le pape Pie XII, né en 1876, mort en 1958, avec ses 4 alliés, a décidé d'entreprendre des négociations pour que Jérusalem soit en possession de l'Église catholique. 1947, le plan de la division du pays de l'ONU 181 et le couronnement donc de ce plan de la division du pays devrait consister à ce que l'Église catholique entre en possession, reçoive la domination sur Jérusalem. Nous n'allons pas venir pouvoir entrer dans les détails de ces choses, mais il peut être dit la chose suivante: La confiance dans les États-Unis et dans tous les autres pays et chefs d'État du monde n'est plus là, n'existe plus. Il y a seulement qu'une seule puissance mondiale dans laquelle l'économie, la politique et la religion sont rassemblés, résumés et où, depuis 4 semaines, les négociations ont déjà commencé après les échanges des différents ambassadeurs du Vatican à Jérusalem et l'ambassadeur de Jérusalem d'Israël au Vatican. Et c'est ainsi que tout est en train d'être arrangé. Et retenez-vous bien, maintenant, tenez-vous bien, maintenant à Jérusalem, dans la Notre-Dame, là-bas, c'est là-bas la plus grande église catholique à Jérusalem. Maintenant, là-bas, le drap de Turin, de la tombe, est montré. Qui a déjà entendu parler de ça dans les années 50? Il a été écrit là-dessus. Et parce que dans ce linge, dans ce drap, il aurait été trouvé du sang. Alors ils ont prétendu que Jésus-Christ n'est même pas mort, mais qu'il a été seulement meurtri, donc et ensuite mis dans la tombe. Et la preuve de cela serait que dans ce linge, dans ce drap, il y a du sang. Et ça a été la plus grande tromperie qui ait déjà été faite. Car dans Hébreu, il est écrit que notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, avec son propre sang, est allé dans le sanctuaire céleste. Son sang n'est pas dans une tombe ou bien dans un linge de tombe. Son sang est sur le trône de la grâce. Et c'est ainsi que nous avons, par son sang, un libre accès, donc une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Mais comme tout cela se passe, tout cela est en train d'entrer dans la prophétie de la fin des temps pour que, justement, là-bas, un consensus soit trouvé pour que, donc, une entente pour que sur Jérusalem, un contrat soit fait tel que dans le prophète Daniel, cela a été annoncé à l'avance. Et nous vivons réellement dans l'époque dans laquelle toutes ces choses sont en train de prendre leur cours. Et bien aimés frères et sœurs, sans vouloir faire peur à qui que ce soit, nous pouvons nous attendre au retour du Seigneur et nous préparer réellement pour son retour, car le retour du Seigneur est proche. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais il y a une chose que nous savons, c'est que son retour est proche. Ce qui depuis que j'ai lu cet article là sur Mel Gibson, je m'excuse, pardonnez-moi si je mentionne encore cela ici, cet homme qui a tourné ce film d'horreur, c'est ainsi que nous pourrons presque le dire, le désigner, ce film, sur les souffrances et la crucifixion de notre Seigneur Jésus, qui a tourné ce film. Il est devenu milliardaire. Maintenant, ils l'ont trouvé complètement sous. Et en tant que première chose, c'est ainsi que c'est écrit, ils l'ont présenté comme étant complètement sous. Donc, c'est ainsi que cela a été écrit dans la presse ici en Allemagne. D'abord, en tant que première chose, il a insulté un policier et il lui a dit, toi, sale juif. C'est ainsi que cet homme, Gibson, qui a tourné ce film sur les souffrances de Jésus, a donc insulté un policier et a commencé à dire, les juifs sont responsables de toutes les guerres de cette terre, de ce monde. Et maintenant, cet homme qui à Newsweek en février, le 16 février 2004, a donné une interview et avait dit, moi, en tant que protestant, non, je m'excuse, en tant que catholique, j'ai souffert dans un pays protestant comme Jésus a souffert parmi les juifs. Et ensuite, maintenant, toute la vérité vient à la lumière. Je devais penser à ce que même la crucifixion, les souffrances de notre Seigneur sont jetées dans la saleté. Là, en fait, c'est quelqu'un qui haït les juifs, qui se cache derrière un film qui tourne pour dire, mettre la faute sur les juifs. Et comme depuis le commencement déjà l'Église catholique, à partir du deuxième Vatican, Concile du Vatican, à chaque vendredi de la messe de vendredi, ils ont répété cela, que ce sont les juifs qui sont coupables de la mort de Jésus. Et lui, en tant que juif, il a tourné tout un film pour justement encore mettre toute la faute sur les juifs. Bien, mes frères et sœurs, ce monde entier est seulement fondé sur de la tromperie et du mensonge. Il n'y a rien que de la tromperie et des apparences de sainteté sont dans ce monde, et particulièrement dans le monde religieux. Ensuite, nous avons ici, aussi vous pouvez le faire sortir de l'internet, ils disent ici que sans Marie, l'Église catholique n'est plus catholique. Sans Marie, ils ont une religion de Marie, et les Saintes Écritures mentionnent Marie réellement pour la dernière fois dans Actes des Apôtres, le premier chapitre au verset 14, que Marie était ensemble, comptée au nombre des 120 dans la chambre haute, dans la salle de la chambre haute, et qu'elle a expérimenté aussi la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et si on lit toute la description que ce cardinal allemand là en Suisse, dans son exposé, a donné dans cet endroit de pèlerinage, dans la forêt là-bas, comment est-ce que tout est sorti du contexte et réellement est représenté de manière qui n'est pas biblique, quoique ils utilisent différents versets bibliques. Mais tout, bien sûr, sorti de son contexte et introduit dans son propre contexte. Bon, sans Marie, l'Église n'est plus catholique. Laissons cela tel que c'est. Ensuite, nous avons de nouveau encore, ils élèvent, n'est-ce pas, l'ascension de Marie. Nous savons, n'est-ce pas, que la Bible connaît une seule montée au ciel, c'est celle de notre Seigneur. Et ils veulent montrer que la montée au ciel de Marie est plus importante que celle du Seigneur, alors que la Bible ne connaît pas une telle chose. Nous devons porter la parole de Dieu dans sa forme originale. Nous n'avons pas d'autre choix. La Bible ne parle même pas de telle chose. Et je le répète encore une fois, tout le monde religieux est trompé, est menti. Tous les protestants avec de tels exposés sont, comme pour dire, immergés, et tous se prosternent et acceptent. Et on voit même comment est-ce que le dignitaire catholique asperge le dignitaire protestant avec de l'eau soi-disant bénie et lui impose même les mains. C'est impensable tout ce qui se passe dans nos jours. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé un messager et un message pour que nos yeux soient ouverts et que nous puissions discerner la tromperie religieuse et nous séparer réellement, nous purifier et nous laisser blanchir tel que le prophète Daniel l'a dit, et ainsi pouvoir réellement nous préparer pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa grâce. Avant que nous puissions entrer dans l'observation de la parole, je voudrais demander que le frère Gilbert vienne devant et aussi encore prie avec nous. Peut-être que le frère le frère Utkat vienne devant. En fait, je voulais demander au frère Schmidt qu'il puisse aujourd'hui prier en russe, ici, à cet endroit, avec nous. Remercier Dieu. Il refuse. Et je vais vous dire pourquoi. Ça n'a pas d'importance combien de langues quelqu'un connaît. Quand il s'agit de la prière, alors on prie toujours de tout notre cœur dans notre langue natale. N'est-ce pas, dans notre langue natale? C'est ainsi. Mais nous sommes reconnaissants pour le frère Schmidt et pour toutes les portes que Dieu ouvre. Est-ce que le frère est là? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il est là? Oui. Venez, nous voulons nous lever. Nous estimons cela de ce que tous, de toutes les langues sont ici. Et la prédication qui est apportée en langue allemande est faite à ce qu'elle soit rapportée dans différentes autres langues et qu'on puisse écouter, suivre, et que pendant les cantines, vous pouvez avoir de la patience parce que c'est chanté en allemand et le texte vous est en partie traduit. Nous estimons de ce que vous venez et que vous écoutez la parole de Dieu avec nous. Nous n'avons pas d'autre choix. Chantons « Crois seulement, crois seulement ». Vous pouvez vous asseoir. J'ai bien sûr plus de difficultés avec les langues tchèques que les slovaques, avec les polonaises pas du tout, mais parfois je trouve quelques mots qui se ressemblent. Nous avons ressenti ce qui vient du cœur, ça va au cœur, et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de ce que sa parole produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Ce n'est pas le messager qui produit l'effet, c'est la parole qui produit l'effet. Le messager fait que apporter le message. Et c'est Dieu qui veille sur sa parole. C'est lui qui nous la révèle et qui nous accorde l'obéissance et un oui de tout notre cœur. Notre frère de la Norvège, hier soir, il a si bien résumé la prédication. Nous allons tout à l'heure de nouveau l'appeler. Nous demandons que tous puissent, particulièrement nos frères, se sentent bien. Je vous dois cette explication pour le texte que nous avons hier lu de 2 Timothée. Je voudrais simplement, rapidement, vous dire dans quel contexte ce texte se trouve, c'est-à-dire en répondant donc à beaucoup de questions qui m'ont été posées venant du monde entier dans le déroulement des années, particulièrement dans les derniers mois qui m'ont été posées. Et ce sont des frères de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, qui particulièrement ont insisté que ces questions soient répondues. Et je le dis avec beaucoup de douleur. Ce qui se passe dans toutes les églises et les églises libres et qui n'est pas enseigné correctement nous occupe aussi, nous le constatons, nous l'observons, mais ça ne nous commet aucun dégât. Le dégât qui est commis vient toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Car de l'extérieur, quand il y a de la persécution, cela, au contraire, permet que les croyants aillent vers l'un vers l'autre et s'unissent. Mais quand les problèmes viennent de l'intérieur, tel que Pierre aussi le dit dans 2 Pierre chapitre 2 et Paul aussi, je vais tout de suite lire cette parole, mais ici d'abord dans 2 Timothée chapitre 2, je lis seulement le dernier verset, le verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Je le répète encore une fois, tous les faux enseignements qui existent dans les églises et les églises libres ne nous empêchent, ne nous dérangent pas du tout. Mais les obstacles qui sont faits parmi le message, ce sont toutes ces interprétations-là et ces faux enseignements qui sont propagés et toujours de nouveau, il y a des nouvelles divisions qui apparaissent par tous ces faux enseignements et interprétations. Je vais vous lire seulement quelques questions qui m'ont été posées. Quelle position tu as aujourd'hui devant le ministère de Frère Branham? Quelle est ta conviction en regard au message de la fin des temps? Crois-tu à l'ouverture des sept sceaux? Est-ce que le septième sceau a été aussi révélé? Qu'est-ce que voulait dire Frère Branham avec le troisième pull? Pourquoi est-ce que Frère Branham s'est de manière répétée mentionné de Apocalypse 10, verset 7? Est-ce que tu enseignes différemment que Frère Branham a enseigné? Est-ce que tu crois à l'enseignement de la parousie? Qui sait ce que cet enseignement contient? Cet enseignement de la parousie dit qu'il est cru donc que le Seigneur est déjà revenu. Le mot grec parousia signifie présence corporelle. Et je pense à cette conférence internationale de prédicateurs que nous avions eue ici sur une table dans ce bâtiment. Et tel que notre frère Frankos, un homme né en Grèce, maintenant vivant, habitant en Australie, on lui avait demandé, tu es grec? Dis-nous ce que le mot parousie signifie. Alors, il n'a rien dit du tout, il s'est simplement levé et il est sorti par la porte ici, à ma gauche, il a fermé la porte derrière lui et il est revenu et il a dit, ça c'est la parousie, ma présence personnelle corporelle, ma venue personnelle, c'est parousie. Et ces frères là qui ne maîtrisent même pas leur propre langue ose interpréter la signification d'une langue étrangère qui n'est pas leur propre langue. C'est ainsi que notre Seigneur, tel qu'il est monté au ciel, il reviendra de la même manière, pas en tant qu'une idée, en tant qu'un enseignement, mais le même Jésus qui est monté au ciel de parmi vous reviendra de la même manière tel que vous l'avez vu monter au ciel. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Et c'est ainsi que nous le croyons de tout notre cœur. La question 9. Est-ce que tu crois que Apocalypse 10, de 1 jusqu'au verset 7, est déjà accompli? Question 10. Est-ce que tu crois que le Fils de l'homme, selon Luc 21, verset 27, est déjà revenu? Même la question est déjà venue. Même la question, est-ce que ton ministère est fondé dans la Bible? Ensuite, la question 12. Est-ce que tu corriges dans différents points le message, le prophète? Est-ce que frère Branham a reçu la révélation des sept tonnerres? Est-ce que tu crois au ministère d'un huitième messager? Vous pouvez aller par toute l'Amérique du Sud. Il y a un huitième messager l'un après l'autre. Oui. Et tous disent, frère Branham n'a pas achevé son ministère. Et alors ils arrivent et ils disent, je suis le huitième messager. Non. Et donc, on ne devrait pas, c'est vrai, nommer des noms, mais on pourrait le faire. Ils ont leur propre brochure et leur propre publication avec photos. Et tous peuvent lire ce qu'ils enseignent et apprendre ce qu'ils disent. Moi, je réponds très rapidement à de telles questions. Dans la main du Seigneur, il y avait seulement sept messagers et un huitième messager. Il doit obligatoirement être dans la main d'un autre. C'est tout, c'est fini. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est tout. Si il y en a seulement sept qui étaient dans la main du Seigneur, ça veut dire que le huitième, obligatoirement, logiquement, est en trop. Et ça veut dire qu'il n'est pas dans la main du Seigneur, il est utilisé par quelqu'un d'autre. Quel est ton absolu? La question suivante. La Bible ou bien le message? Mais le message, c'est la Bible. Et la Bible, c'est le message. Quelles sont ces questions qui n'ont aucun sens? Mais on doit aussi le dire ici. Les gens, en partie, je vous dis, mettent la Bible de côté. Ils mettent la Bible en partie de côté. Justement, par de telles personnes qui portent de tels enseignements différents. Et bien sûr, il est aussi demandé qui présentera à l'église au Seigneur la nourriture spirituelle, etc., etc. Ici, il y a plusieurs questions qui me sont posées de cette manière. Il y en a même qui... Il y a des questions qui nous sont vraiment étrangères, étranges. Il y a même une question, par exemple, qui est vraiment à sa place seulement dans les continents africains. Mais nous devons, parce que tous ces enseignements-là sont propagés dans le monde, nous devons réellement couvrir tout et prendre position pour la parole de Dieu, et cela par les Saintes Écritures. Et ça, je le répète encore une fois, ce qui se passe à l'extérieur, en tant que pression et persécution et incompréhension, tout ce qui est écrit sur nous et est dit sur nous, tel que ça pourrait sembler grave, ça n'apporte aucune division parmi nous. Au contraire, ça nous fait nous rapprocher les uns des autres. Mais tout ce qui vient de l'intérieur, de parmi nous, et ensuite est propagé et enseigné et porté, cela a toujours causé des nouvelles divisions. Et le corps du Seigneur doit, sous la puissance du Saint-Esprit, doit revenir dans l'unité de la foi et être joint. N'est-ce pas, frère Miskis? Que Dieu te bénisse. On doit encore tout à l'heure t'appeler. Bon, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, Paul a écrit, et la même chose se répète. La même chose se répète. Et nous devons réellement nous occuper de ces sujets différents tels que Paul autrefois devait le faire. Celui qui, par exemple, lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, là-bas, il a été prétendu, par exemple, que la résurrection se serait déjà passée. Et que là-bas même, des personnes se sont laissées baptiser pour les morts. Ensuite, hier nous l'avons lu, comment est-ce que Miléus et Iphlédius, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont apporté de la confusion dans l'église. Les uns disent il n'y a pas de résurrection, les autres disent qu'elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée. Alors quoi? C'est vraiment de la confusion à l'intérieur de l'église. Et Dieu accorde de la clarté par sa parole. Alors que nous étions à la fin avec les réponses des questions, il y a eu une question qui a été encore ajoutée, quel sera alors le titre de cette brochure? Et réellement, comme donné par l'Esprit, les hommes, des personnes posent des questions et Dieu répond par sa parole. Des personnes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Pas par des hommes. Les hommes, eux, ils posent des questions, mais Dieu, lui, il répond pas par des personnes. Mais Dieu, lui, il répond seulement par sa parole. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous avons ici une description dans Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Donc, vu sa propre personne, il considérait sa vie comme ayant aucune valeur, aucune valeur. La chose qui a de la valeur, elle est seulement dans notre vie au moment où le trésor divin est placé dans notre cœur. Paul l'avait expérimenté. Considérant sa propre personne, il dit sans valeur. Mais la valeur est contenue dans ce que Dieu a mis en lui. Ensuite, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. C'est-à-dire de rendre témoignage pour le message du salut de la grâce de Dieu. C'est de ça qu'il s'agissait pour Paul. Et c'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Ma vie, j'ai vécu ma vie comme ça a toujours été. Mais aujourd'hui, il s'agit de ce que Dieu a promis à l'Église. Et il s'agit de l'objectif, de la signification et du sens qu'il a placé dans notre vie, qui est déterminé pour l'éternité. Et ensuite, ça continue à partir du verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je n'ai rien manqué, je n'ai pas manqué de le faire. Donc, il a prêché, il a annoncé, il n'a rien caché. Et il a ainsi la vie de personne sur sa conscience. Car celui qui refuse, qui rejette ce conseil du salut annoncé, emporte la responsabilité. Car pour celui qui accepte cette œuvre de la rédemption et le conseil du salut, Dieu a pris la responsabilité pour lui. Dieu a commencé son œuvre et l'achèvera. C'est important de pouvoir recevoir la parole de Dieu et de tout son cœur croire le conseil du salut, tout le conseil de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous sera révélé et que nous recevons la compréhension pour les Écritures ouvertes. Et tel que Paul ici l'écrit, ou bien Luc, cela a été écrit de Luc, les Actes des Apôtres, que tout le conseil du salut de notre Dieu nous a été annoncé pour que nous soyons introduits en lui. Et ensuite, cela continue au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'église de Dieu, pas votre propre église, Mais l'église de Dieu, l'église du Seigneur, en amant l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Que maintenant dans notre cœur, en tant que prière, cela puisse monter à Dieu. Seigneur fidèle, prends soin toi-même que dans tous les pays de la terre, dans le monde entier, partout où des églises sont, où l'église est, que le Seigneur lui-même établisse des pasteurs qui sont selon son cœur, qui ne se paient pas eux-mêmes, qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, qui ne propagent pas et prêchent pas leurs propres enseignements et opinions et pensées, mais tels que Paul l'adresse à Timothée et a écrit. Et prouve de la véracité dans l'enseignement et qu'il n'y a pas de falsification. Il s'agit du véritable enseignement. Vous savez que le mot en hébreu Torah, ce qui est en fait la désignation pour les cinq livres de Moïse, signifie en langue allemande enseignement, instruction. Dieu a accordé l'enseignement. Et c'est dans l'enseignement qu'il a donné des instructions à accorder l'enseignement. Et c'est dans l'enseignement qu'il a donné des instructions à son peuple. Nous avons le Nouveau Testament avec tous les enseignements, avec toutes les instructions. Et là, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu a oublié? Rien. Tout est écrit dans ce livre jusqu'à qu'à même les nouveaux cieux et concernant la nouvelle terre. Tout est écrit dans ce livre. Ici, il s'agit de l'église du Seigneur qu'il l'a racheté, acquis par son propre sang. Encore une fois, de cette première phrase, de cette coupure de cet exposé de l'internet sur Marie. Marie est le meilleur exemple de ce qui se passe quand un homme, quand une personne croit dans son époque la promesse qui lui est faite. C'est seulement comme ça que la parole peut devenir chère. C'est seulement comme ça que le Saint-Esprit peut venir sur nous. Marie n'a pas besoin d'être glorifiée et être honorée. En tant que premier exemple, elle peut être prise de ce que Dieu peut faire et fait quand il donne ses promesses et que la promesse est crue. Alors la parole devient chère. Alors il y a un engendrement de l'esprit qui a lieu. Alors il y a une naissance qui a lieu quand on croit ce que Dieu a promis. Et c'est ainsi que nous voyons les exemples dans les Saintes Écritures. Rapportant cela à nous dans notre temps. Et ça, nous ne le disons pas pour vouloir avoir raison. Ça, nous le disons à cause de la vérité. Tout l'édifice du conseil du salut de notre Dieu est fondé sur des promesses. Et nous pouvons regarder à repartir à Genèse 18, verset 10, alors que le Seigneur avait donné des promesses pour Isaac, toujours des promesses, promesses, promesses. Et pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ que le oui et le amen sont. Oui, pour qui? Pour nous qui croyons les promesses. Pour nous qui recevons ce que Dieu nous a promis. Cela commence déjà avec la promesse du Père. Attendez à Jérusalem jusqu'à que vous recevez la promesse du Père d'être revêtu de la puissance d'en haut. Pourquoi? Pour que notre Seigneur par l'Église lui-même puisse continuer son ministère. Pour que tout ce qui s'est passé par son ministère puisse se répéter par l'Église. Et que le Seigneur ait ici sur cette terre un endroit où il se révèle, où il se manifeste, c'est-à-dire une tente d'assignation, un corps. Car lui en tant que tête, il dirige et que chaque membre, il lui est montré la place qui lui est due par la tête. C'est ainsi que nous croyons que le Dieu éternel a une église qu'il appelle à sortir et que dans le monde entier il forme. Une église telle que elle existe qui se dégage de tout piège tendu par le diable, par des interprétations et des faux enseignements et entre dans la liberté des enfants de Dieu et ainsi ont la possibilité de se soumettre au Seigneur et dans la foi tenir ferme et résister au diable pour que la volonté du Seigneur soit faite. Souvent nous avons eu à le dire, les Juifs doivent repartir dans le pays de la promesse. Ça, c'est une obligation, il faut, parce que c'est Dieu qui l'a dit. À la fin des jours, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans le pays que je vous ai donné, que j'ai donné et promis à vos pères. Jérémie chapitre 31. Lui qui a éparpillé Jérusalem, Israël, les rassemble de nouveau et les plante dans le pays. Mais ici, n'est-ce pas, est le point important. Tel que les Juifs du monde entier doivent revenir dans le pays de la promesse pour pouvoir avoir part à ce que Dieu leur a promis. Et au plus tard, cela aura lieu sous le ministère des deux prophètes qui, selon Zacharie 4 et Apocalypse 11, seront à Jérusalem en tant que les deux oliviers effectueront leur ministère. On doit être là, dans l'endroit où Dieu accomplit ses promesses. On doit être là, dans l'endroit où Dieu révèle sa volonté. Et nous voyons que le rassemblement du peuple d'Israël est, comme pour dire, terminé. On n'entend plus dans ces derniers mois parler d'un retour encore, que des Juifs seraient en train de revenir de l'Éthiopie ou bien alors de quelque part d'autre. Cela semble être ainsi que tous sont revenus. Bien sûr, ceux qui sont sur la Wall Street vont continuer à faire leur business, mais Dieu a d'abord un choix. Les 144 000 de chaque tribu, 12 000. Et je vous garantis, ils sont déjà là-bas. Tous sont déjà là-bas en Israël. Ils sont déjà là-bas. Ils font qu'attendre le moment et le temps qui sera accompli. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, soyez attentif à vous-même au verset 28, ensuite au verset 29. Donc, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ensuite, suit la chose la plus grave. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après d'eux. Ça, c'est la remarque. Chaque frère qui apparaît avec un nouveau enseignement à l'intention d'attirer les disciples après lui. On peut le voir dans le monde entier. Je connais bien ces choses. Je m'y connais dans ces choses. On peut l'observer dans le monde entier. Ce groupe-là suit ce frère. Cet autre groupe-là suit ce frère. Mais la véritable église épouse suit le Seigneur Jésus-Christ. L'église épouse, l'épouse prête l'oreille à la voix de l'époux. L'épouse ne prête pas l'oreille à une interprétation
et ne se laisse pas tendre un piège par des interprétations et des enseignements faux, mais elle reste dans la parole de la vérité et c'est ainsi qu'elle sera sanctifiée en elle. C'est ainsi que nous comprenons que la parole qui dit que sans sanctification, personne ne verra Dieu est vraie. Et la sanctification peut vraiment seulement avoir lieu par la parole. Par la parole. Ta propre sanctification ne suffira pas. Il faut que ce soit celle que l'Esprit de Dieu produit en toi. En toi. Et il peut seulement la produire en toi si la parole de la vérité est crue par toi de tout ton cœur et reçue révélée. Et que ainsi nous avons la possibilité de nous retrouver dans la parole véritable. Je lis encore un verset ici, le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Oui, qu'est-ce que le frère Rousse, qu'est-ce que le frère Schmitt, qu'est-ce que je devrais dire? Depuis 1960, alors que Dieu avait accordé sa grâce et qu'un nouveau commencement avait été fait, et particulièrement depuis 1966, alors que sur le fondement d'un ordre et d'un mandat divin, j'ai commencé à porter cette parole divine, merveilleuse, et souvent sous des larmes. Nous avons exhorté, averti et transmis l'enseignement. Paul parle ici de 3 années. Mais nous pourrons parler de 33 ans. Nous pouvons parler de 42 ans. Où nous n'avons pas arrêté de prêcher et porter la vraie parole de Dieu. Je le dis pour l'honneur du Dieu vivant, Tout-Puissant. Nous n'avons pas eu besoin de corriger une seule prédication. Nous n'avons rien eu besoin de corriger de tout ce que nous avons enseigné dans toutes ces années, parce que nous avons fait que enseigner des Saintes Écritures, allant seulement de verset en verset. Et ça, c'est justement la grâce que Dieu nous a accordée. Nous appuyons tout ce que nous disons par des Écritures, et c'est ainsi que nous avons avec lui la directe relation et avec sa parole et à sa parole. Notre frère de la Norvège disait hier que depuis l'âge de 13 ans, il lit la Bible. Moi, c'était depuis l'âge de 12 ans. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que dans la Lunenhallenberg, appelé comme ça, dans cet endroit appelé comme ça, nous étions arrivés là-bas et que notre papa a réuni toute sa famille autour de la table et il a lu la Bible. Et qu'ensemble, nous avons prié et remercié Dieu. Depuis ce jour, j'ai lu quotidiennement la Bible, tous les jours. Depuis 1945, j'ai lu tous les jours la Bible. Et le respect que depuis le premier jour, j'avais à la parole de Dieu est resté en moi jusqu'à aujourd'hui encore et restera en moi durant toute éternité. Ça, c'est Dieu qui met ce respect là dans un homme. Aucun homme ne peut se procurer ce respect. Nous permettons à Dieu de nous accorder ce cadeau, ce don. Donc, dans 1 Thessaloniciens, ici, Paul écrit, on pourrait lire beaucoup de versets bibliques. Paul a adressé cela aux élus qu'il nourrissait, à qui il a prêché la parole. C'est écrit encore ici, n'est-ce pas, que tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, qui étaient déterminés à la vie éternelle, sont devenus croyants. Déterminés à la vie éternelle, comme c'est écrit dans Actes chapitre 13. Déterminés à la vie éternelle. Actes chapitre 13, verset 46-48. Ils écoutent le message, ils le croient et ils l'acceptent et expérimentent la grâce de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Dites Amen. C'est bien quand nous avons un oui dans notre cœur que nous puissions l'exprimer. Le Amen n'est pas pour celui qui lit la parole ou bien la porte, mais c'est à Dieu le Seigneur. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Maintenant arrive la raison. Car notre prédication du message du salut ne vous a pas été prêchée en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Non. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier la prédication du message du salut, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Le même Paul écrit aux Galates dans le premier chapitre, Galates chapitre 1. Dans ce chapitre, en fait, c'est dans Galates chapitre, chapitre 1, il a parlé de plusieurs évangiles, qu'il y aurait un autre évangile, mais il a dit que c'est pas qu'il y aurait un autre évangile, mais il y en a qui pensent qu'il y a un autre évangile, et il a dit que même si un ange vient du ciel et vous prête un autre évangile, et qu'il y a un petit truc qui est changé, qui n'est pas comme vous l'avez reçu dans le véritable évangile, cette petite différence-là se contient, est contenue une malédiction. Nous ne pouvons rien en faire. Cette malédiction-là, c'est en fait un lien, c'est un piège du diable. Alors il dit ici dans Galates chapitre 1, verset 8, mais si nous sommes, il dit, au verset 10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je cherche, mais celle de Dieu? Il s'agit de la faveur de Dieu, du bon plaisir de Dieu. Nous l'avons lu des trois évangiles hier. Pas ma volonté. Pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu a été de la même manière rapportée à l'Église, et que c'est seulement dans la volonté de Dieu que nous pouvons être sanctifiés, et que l'Église a été déterminée à telle que la volonté de Dieu par Jésus-Christ, le Rédempteur, s'était accompli, s'accomplissait. Il faut que la volonté de Dieu par les rachetés, par l'Église rachetée sur cette terre, s'accomplisse. D'une manière que depuis le commencement jusqu'à la fin, réellement, nous voyons Dieu à l'œuvre. Je vous le lis. C'est pour cette raison qu'il nous a rachetés. Je vous le lis dans Hébreux chapitre 10. Ici, notre Seigneur, faisant mention des promesses du psaume 40, verset 8. Ici, dans Hébreux 10, il dit ici la chose suivante. Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit... Pardon, Hébreux 10, verset 7. Alors il dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le livre de livre pour faire ta volonté, ô Dieu. Ensuite, verset 9. Voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. En vertu de cette volonté. Et nous sommes, n'est-ce pas, d'accord avec la volonté de Dieu, dont c'était sa volonté, et c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais ce ne sont pas tous qui acceptent cette œuvre accomplie pour eux. Maintenant, le verset 14 encore, d'Hébreux chapitre 10. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Déjà, pour toujours perfectionner, sanctifié, achevé, déjà vu devant son trône, apparu, sans tache, sans ride, déjà vu de cette manière, sans tache, sans ride. Pour que nous puissions savoir que notre obéissance de la foi de la part de Dieu est la condition et est exigée de la part de Dieu, je voudrais vous lire cela dans Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien, frères et sœurs, la mort est une réalité. Et notre Seigneur devait rencontrer la mort. Il devait mourir et pour pouvoir ôter l'aiguillon de la mort et vaincre la mort, vaincre l'enfer et le troisième jour ressusciter. Et sa victoire est notre victoire. Il est dit ici encore, et ça c'est le verset le plus important pour nous. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, pas pour tous, mais pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. La désobéissance nous a à tous apporté la destruction. La désobéissance a eu lieu alors que l'adversaire a placé un piège à Ève en remettant la parole en question, et en ajoutant un mot, en ajoutant ce qu'il voulait à la parole originale et à annuler ce que Dieu a dit en ajoutant quelque chose à la parole et interprétant. Et Ève est tombée dans le mensonge du diable. Elle s'est consciemment soumise et permis laisser séduire. Et voilà que ce n'était pas seulement sur les premiers hommes, mais sur nous tous, la mort est venue. Donc, la mort est entrée dans le monde et est venue sur tous les hommes, comme c'est écrit dans Romains 5. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur vint et rédempteur. Il était le seul sur lequel la mort n'avait aucun pouvoir. Mais puisque nos péchés et fautes avaient été placés sur lui et que la condamnation, car le salaire que le péché paye, c'est la mort. C'est ainsi que Paul l'écrit dans Romains chapitre 6. C'est la mort. C'est peut-être raison, puisque il a porté toutes nos fautes et nos péchés, vraiment, il a porté tout sur lui. Il a ôté le mur de séparation et il a ôté l'inimitié. Tout a été ôté. Même le rideau dans le temple s'est déchiré. Pour que tous, de manière visible pour tous, montrer que ici, Dieu, d'en haut, a répondu, le chemin dans le lieu très saint est inauguré, est ouvert est libre. Tous ceux, pour tous ceux qui lui obéissent. Nous voulons être des enfants de Dieu obéissants. Obéissants à la parole de Dieu, car la désobéissance peut et est le péché de l'idolâtrie et de la divinité. Et c'est ainsi que Paul peut demander, qui vous a ensorcelé? Galates 3, vous avez fait un bon commencement. Pourquoi est-ce que ensuite cela s'est passé avec vous maintenant? Encore cette remarque. Frère Branham avait vu que l'épouse allait quitter la marche dans le pas. Il a vu l'épouse, comment est-ce que réellement elle était habillée, très fin, très minime, très court et très fin. On pouvait voir transparent, on pouvait voir tout à ses sœurs, sur ses sœurs. Il lui a été montré dans une vision. Et voilà, il a été dit que cela devrait être l'épouse. Et alors frère Branham s'est terrifié. Il a dit, mais est-ce que ça, c'est le résultat de tous mes efforts de prédication durant toutes ces années? Est-ce qu'avec ce résultat-là, je peux me tenir devant Dieu? Est-ce que mon ministère a servi à quelque chose? Et ensuite, il lui a été montré encore une fois l'épouse, glorieusement habillée en blanc, sans tache et sans rides. Et ensuite, il lui a été dit, ensuite, il a dit que l'épouse, de nouveau, a été ramenée dans le même pas avec la parole. Donc, elle est sortie de ce désordre-là alors qu'elle s'était éloignée de la parole. Elle est sortie de ce désordre. Mais bien, les frères et sœurs ne sont pas des fanatiques, mais nous croyons cette parole de Dieu dans toute sa plénitude. Et nous croyons que le Seigneur aura une église sans tache et sans rides. Et si, pendant ce week-end, nous n'avons pas, c'est vrai, pu toucher tous les différents enseignements qui existent dans les églises et les églises libres, toutes ces interprétations différentes dans les différents conciles qui ont été inventés et décidés, toutes ces différentes synodes, nous croyons le conseil de notre Dieu. Ça, tout ce que Dieu d'éternité en éternité a décidé, c'est ce que nous croyons. Et bien, mes frères et sœurs, bien aimés amis, nous le disons avec Pierre, nous le disons avec, et cela avec véracité. Nous aussi, nous ne sommes pas des gens qui courent après des fables habilement conçues, mais nous suivons la parole de Dieu seulement. Et la parole prophétique est une lumière sur notre chemin, est devenue une lumière sur notre chemin. Nous avons par la grâce de Dieu reçu, et si maintenant je le dis encore une fois, reçu l'orientation comme aucun politicien peut l'avoir, personne peut l'avoir, car Paul, déjà dans 1 Thessaloniciens dans le chapitre 5, l'a dit au verset 4, alors qu'il parlait du jour du Seigneur qui comme un filet, un piège viendra sur toute la terre. Vous, bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Dieu nous a accordé la lumière et nous nous réjouissons de ce qu'il parle avec nous. Nous nous réjouissons de ce que nous croyons, nous avons la grâce de croire sa parole et d'expérimenter comment est-ce qu'il nous accorde la révélation, et encore une fois la révélation par sa grâce. Que Dieu le Seigneur, à lui soit toute l'honneur, toute la louange, et de ce que, de cette manière, il a accepté son peuple, et que au milieu de toutes ces différentes voix qui se font entendre religieuses qui existent sur cette terre, il nous fait entendre sa voix par sa grâce, selon la parole de l'Écriture. Mes brebis, à entendent ma voix. Celui qui appartient au troupeau du Seigneur, dans ces jours, prêtera l'oreille à la voix de l'époux. Et c'est ainsi que nous sommes de nouveau à cette parole, que celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. La plupart ont deux oreilles, mais il faut que l'oreille de notre cœur soit ouverte. La parole n'a pas le droit d'entrer dans une oreille et sortir dans l'autre. Il faut qu'elle entre dans l'oreille du cœur, dans le cœur. Il faut qu'elle devienne une révélation. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce que les réunions que Dieu nous accorde, auxquelles nous allons prendre part en entreprenant de longs voyages, kilomètres, et que nous ne regardons pas aux dépenses et à la fatigue, est-ce que ça sert à venir? Est-ce que ce sont des jours et des heures de préparation que nous expérimentons? Que Dieu nous accorde cette grâce, que ce ne soit pas en vain que nous ayons couru de réellement racheter le temps tant que nous l'avons, car la nuit vient où personne pourra travailler. Que Dieu Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous nous levons pour la prière. Aujourd'hui, je voudrais demander combien sont ici qui ont besoin de, qui veulent recevoir la révélation de la part de Dieu lui-même. Ce n'est pas toute la révélation qui vient en un seul jour et tout n'est pas possible dans une seule prédication, mais ça vient tel que nous pouvons le recevoir. Dieu le sait. C'est ainsi que cela nous sera aussi accordé de la part de Dieu. Et c'est ainsi que nous irons de clarté en clarté et de vérité en vérité et de révélation en révélation. Et nous ressentons que l'Esprit de Dieu agit parmi nous et que l'obéissance de la foi en nous, il veut la créer. Et nous avons aujourd'hui un peu mieux compris que l'Église est la tente d'assignation de Dieu, l'endroit de sa révélation, de sa manifestation sur cette terre. Le corps de Jésus-Christ, par un seul esprit, baptisé dans un seul corps. Et Paul écrit que à chacun le don de l'esprit, comme Dieu le veut, est donné. Et c'est ainsi qu'il y a les différents dons et ministères à l'intérieur de l'Église qui sont énumérés, que ce soit dans 1 Corinthiens 12 ou bien alors 14. Et entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre 13 de l'amour. S'il vous plaît, ne blessez jamais l'ordre du Seigneur de l'amour fraternel. C'est dans l'amour fraternel que l'amour pour tous les hommes sera possible. C'est de l'amour fraternel que sort l'amour pour tous les hommes. Ne permettez jamais que dans votre cœur s'introduise une pensée qui est contre un frère et que par cela des racines d'amertume apparaissent. Car il est écrit dans Matthieu 5, au verset 8, dans la béatitude. Sauvés sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans le Proverbe 4, verset 4, il est dit qu'avant toute chose, gardez nos cœurs. Nous ne serons pas responsables de ce que les autres font, que chacun fasse attention à lui-même. C'est ainsi que Dieu sera avec nous. Et l'Esprit de Dieu va convaincre du péché et du jugement et de la justice, car nous serons responsables de ce que nous avons dit et pensé et fait, pas de ce que les autres auront dit et fait. C'est pas toi, c'est pas moi qui va convaincre les autres, c'est l'Esprit de Dieu qui convaincra les autres, et il le fait par les Écritures. C'est ainsi que aujourd'hui, ici et dans le monde entier, que nous puissions ensemble prier et faire monter cette prière au trône de Dieu, que à l'intérieur du message un changement soit manifesté et que les hommes soient réellement détachés des pièges du diable et que ce ne soient pas des personnes qui continuent à suivre un frère et son enseignement, mais suivre les traces du Seigneur et suivre le Seigneur pour être trouvé en tant que son disciple. Quand il a dit, comme il a dit, suivez-moi. Et la promesse de son retour est adressée aux disciples. Et c'est ainsi que le Seigneur puisse accorder réellement ce changement. Et que tous ceux qui ont dévié de la vérité, mais qui appartiennent à l'épouse, qu'ils aient la possibilité d'être ramenés. Et cela dans le monde entier, partout où ils pourraient se trouver. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, prions, ensemble prier. Ô Père Céleste, nous venons devant ta sainte face. Ô bien-aimé Seigneur, aujourd'hui il ne s'agit pas de ces 3 ans de Paul, ou bien de 33 ans. Aujourd'hui il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses faire grâce à ton peuple. Que tu puisses mettre une fin avec toutes ces séductions. Mettre une fin, faire une fin. Et conduire ton peuple à revenir à ta parole, à ta vérité. Oh bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous te louons, nous t'exaltons. Nous exaltons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour la victoire de Golgotha. Oh bien-aimé Seigneur, que tu puisses ramener l'épouse, restituer l'épouse, ramener l'épouse dans le pas avec ta parole, en accord avec ta sainte parole. Alléluia. Oh, honneur et gloire soient apportés à notre Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. 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 Louez Dieu. Louez Dieu. Car il nous a exaucés. Le changement a été introduit. Le Seigneur prend les choses de son peuple entre ses mains. Alléluia. Il s'occupe lui-même des problèmes qui existent parmi son peuple. Oh grand Dieu, béni du lever du soleil jusqu'à son coucher. Commence en Nouvelle-Zélande où tous les jours le soleil se lève et continue par l'Australie, et que toute la terre soit éclairée par la révélation que tu as accordée. Ô grand Dieu, nous te disons merci pour tout le bien que tu nous a fait par ta grâce. Alléluia. 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 Gloire et honneur soient apportés à notre Dieu. Alléluia. Peut-être que notre frère, tout nouveau, Es-tu prêt pour cette heure quand Dieu viendra prendre les siens? As-tu entendu l'annonce de comment est-ce qu'il récompensera les siens? Quand il apparaîtra dans les nuées, en majesté et en puissance. Je ne peux pas l'exprimer par des paroles. Mon cœur loue et exalte. Glorieux marchant dans des rues pavées d'or, dans le pays du Père. Merveilleuses sont ses œuvres. Glorieux, habillé en vêtements blancs. Peux-tu comprendre l'amour que Jésus t'offre? Es-tu en paix avec lui? Si Jésus venait déjà aujourd'hui, il a préparé l'endroit pour le troupeau dans la tente qui toujours combat fidèlement pour lui. Le jour promis arrive. Marchant glorieux dans le pays du Père, dans des rues pavées d'or. Comme ses œuvres sont merveilleuses.
Nichts ist vom Leib mehr geblieben. Spott und Hohn sind dann vorbei.
Plus rien n'est resté de la douleur. Tout est passé. Jésus t'aimera toujours. Que cela soit ma solution et ta solution. Veux-tu avec lui le pays? Veux-tu un jour voir Jésus? C'est seulement lui qui t'amène dans ce beau pays, dans cette belle ville. Tu as seulement besoin de venir à Jésus.
Herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
18.
Ich rühme die Gnade.
Je loue la grâce merveilleuse. M'a trouvé moi pécheur. Moi qui étais un adversaire de la croix, Dieu m'a vaincu. La grâce m'a enseigné la crainte devant Dieu. Peur. Elle a soumis le péché et l'a chassé quand j'ai cru. Dans les problèmes et les dangers, dans les catastrophes, la grâce fidèlement porté partout. grâce qui me ramène à la maison. Et dans le pays du ciel, je me tiendrai devant le trône de Dieu en tant que l'un de qui a trouvé la grâce. Après avoir passé des milliers d'années dans la gloire, je chanterai encore la grâce.